Bonjour, vous écoutez Tsukimi, le podcast pour les amoureux du Japon. Je m'appelle Mathilde Amotte et je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Sur ce podcast, écrit à plusieurs mains avec les membres de l'équipe de la Maison du Mochi, nous partageons notre passion pour le Japon et sa culture, rythmée par la nature et les saisons. Tsukimi est un podcast que nous publions deux fois par mois, où nous suivons sur une année le calendrier traditionnel japonais, en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Bonne écoute! Bonjour à vous, chers auditeurs. Cet épisode est un peu spécial, car c'est le dernier avant une pause de 6 mois, le temps de mon congé maternité. Pour l'occasion, et en cette saison de pleine floraison, j'ai la joie d'inviter Sophie Lebert, spécialiste de botanique et plus spécifiquement de fleurs japonaises. Après des études de japonais et plusieurs années passées au Japon en tant que chargée des relations internationales pour la ville de Takamatsu, Sophie Lebert s'est prise de passion pour les plantes japonaises, et plus particulièrement les fleurs de la période d'Edo, lorsque les seigneurs utilisaient les jardins comme outil d'apparat. Aujourd'hui, Sophie prépare sur ce thème un doctorat à l'Université de Paris et organise des voyages au Japon au fil des floraisons et des saisons. Dans cet épisode d'avril, nous allons donc évidemment parler sakura, le fameux cerisier japonais, et la raison pour laquelle les Japonais en sont si fous. Nous allons parler aussi d'ikebana et de cérémonies du thé, qui ont tous deux beaucoup contribué au déploiement du goût japonais pour les fleurs. Enfin, Sophie vous parlera de ces fameux jardins de la période d'Edo et vous donnera des conseils d'itinéraire de voyage au Japon en fonction des saisons, ainsi que des sites à visiter en France. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathilda.
Un grand merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
C'est gentil de m'avoir invitée, merci à vous.
Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter ?
Oui, donc je m'appelle Sophie, je suis née à Tours et je travaille aujourd'hui à mon compte comme guide accompagnatrice. Donc je crée effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des itinéraires au Japon au fil des floraisons. Et en parallèle, j'ai repris mes études et je prépare effectivement une thèse sur l'histoire de l'horticulture japonaise à l'époque d'Edo.
C'est merveilleux, j'ai hâte qu'on en discute davantage. C'est la question que j'aime toujours poser au début à mes invités. Quand vous étiez petite, que rêviez-vous de faire ?
Alors là, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, quand j'étais petite, je rêvais d'être architecte.
Ah ah.
Je passais mes journées à construire des maisons avec des briques de Lego.
Ah oui ?
Voilà.
Ok. Et donc, depuis, qu'est-ce que vous en avez fait aujourd'hui ?
Bon, en fait, je me dis que je construis ma vie à l'image des briques que j'assemblais les unes sur les autres pour construire les maisons que j'aimais quand j'étais petite.
Voilà. Oui, et puis les jardins, c'est aussi une construction
d'itinéraire, végétale. Exactement, ouais. Exactement.
Mm-hmm. Bon. On va tout de suite parler du Japon parce que le Japon arrive très tôt dans votre vie.
Oui.
Vous vous lancez dans des études de japonais à 20 ans, mm-hmm. Alors que vous étiez à l'époque à Tours,
oui.
En Touraine. Pour quelles raisons choisissez-vous le Japon à cette époque-là ? Et quelle a été votre toute première rencontre avec ce pays ?
Alors la raison pour laquelle j'ai choisi le Japon, en fait, j'ai hésité un petit peu. Je venais de faire 2 années en fait, de commerce à l'IUT de Tours. Et puis après, j'avais envie de poursuivre mes études avec l'apprentissage d'une langue asiatique. J'ai hésité entre le chinois et le japonais. Mm-hmm. Mais à cette époque-là, il faut se resituer. On était au début des années 80 plutôt. La Chine était un pays quand même assez fermé. Le Japon était en plein développement économique. Donc j'ai choisi à ce moment-là le japonais. Voilà. Mm. Et je suis partie à Paris faire mes études.
Très bien, mais donc vous n'aviez pas entendu parler plus que ça du Japon. C'était une hésitation entre la Chine et le Japon.
Énormément. Oui, c'était vraiment une attirance, mais que je ne saurais pas expliquer en fait à cet âge-là. On commençait à entendre parler du Japon, de cette culture qui semblait raffinée, mais je n'avais pas énormément de connaissances sur ce pays.
Et vous vous souvenez la toute première fois où vous avez entendu parler de ce pays ? Souvent, par exemple, on parle de manga ou de...
Pas à cette époque-là. Non, il n'y avait pas encore les mangas, il n'y avait pas encore tout ça. Après, j'ai découvert que mes grands-parents étaient allés au Japon en 1964.
Ah oui ?
Et qu'apparemment, j'ai un ancêtre qui est allé au Japon au tout début du XXe siècle pour construire des ponts.
D'accord.
Mais je ne l'ai su qu'après.
Excellent.
Donc, en fait, il y avait quelque chose d'inné, on pourrait dire.
Donc, vous vous sentiez attirée sans l'expliquer.
Exactement.
Par ce pays.
Exactement.
Ok. Donc depuis vos études de japonais, dans lesquelles vous vous êtes lancé dans les années 80, et jusqu'à aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, vous n'avez jamais coupé le lien avec le Japon. Qu'est-ce qui vous attire tant dans ce pays ?
Alors déjà, pourquoi je n'ai pas coupé le lien ? Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand on apprend le japonais, ça nécessite quand même un certain temps.
Oui.
Entre l'apprentissage des alphabets, des idéogrammes, voilà.
Ça fait 10 ans que je suis au stade débutant, personnellement.
Je comprends, parce que vraiment, ça prend beaucoup de temps. Donc, je me suis dit, après avoir passé autant de temps à faire des pages d'écriture pour apprendre l'ordre des kanji et cette langue, il était hors de question que je la laisse tomber, évidemment.
Oui.
Donc, j'ai toujours maintenu le lien avec le Japon et ce qui m'attire par-dessus tout. Alors déjà, j'ai créé des amitiés au Japon, bien sûr. Donc, il y a ce lien qui reste extrêmement vivace. Et puis aussi, je suis toujours attirée intellectuellement déjà par l'histoire de ce pays que je ne connais pas non plus totalement. Hein. Et puis, ce qui m'intéresse le plus au Japon, enfin, ce qui m'émeut le plus, c'est vraiment le raffinement, l'esthétisme et la nature.
Les deux en même temps. Entre 1994 et 1997, dans le cadre du programme JET,
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 ouais.
Donc Japan Exchange Training Program, vous partez travailler pour la ville de Takamatsu.
Oui.
Quel poste y exercez-vous ?
Alors en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis née à Tours. Et en 1988, la ville de Tours a noué un jumelage avec la ville de Takamatsu sur l'île de Shikoku.
Ok.
Et donc en 1994, j'ai commencé par un stage. C'était en dehors du programme JET. J'ai fait un stage dans le cadre du jumelage entre les deux villes, relations internationales. Donc là, ça a été une expérience vraiment très intéressante. Et j'ai poursuivi après, effectivement, avec ce programme JET qui est financé par le gouvernement japonais. Et là, j'ai travaillé au niveau de la préfecture, enfin du département, comme coordinatrice des relations internationales. Donc mon boulot, c'était de faire des conférences en japonais sur la France, d'écrire des articles, de recevoir des délégations diplomatiques. Enfin voilà, tout ce qui tournait finalement, tout ce qui concernait les échanges culturels entre le Japon et notamment la France. Voilà.
Et vous étiez suffisamment à l'aise en japonais pour pouvoir faire des conférences ?
Oui, à l'époque, oui.
Auprès du
public. Oui, parce qu'en fin de compte, le programme JET, pour le côté français, si vous voulez, c'est un programme qui attire chaque année au Japon des centaines de jeunes qui viennent du monde entier. Et le recrutement qui est fait en France exige en fait que les Français aient déjà un niveau de japonais suffisant pour pouvoir s'exprimer couramment en fait, et notamment faire les interprètes.
Et ce programme existe toujours ?
Oui, tout à fait.
Mais ça, c'est bon à savoir pour ceux qui souhaitent...
Exactement.
Qui souhaitent partir, puisque c'est une bonne... On recrute encore notamment des Français pour avoir
fait.
Ces postes.
Et c'est vraiment un tremplin fantastique pour travailler au Japon et y continuer sa vie, en fait, quand on
désire. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai que je me demandais, nous, on a des équivalents chez nous en France de ce genre de programme ? Pas vraiment, j'en ai pas entendu parler.
La seule chose qui m'y fait penser, enfin non, on n'a pas de programme de réception comme ça de jeunes pour travailler dans des collectivités.
Ouais.
Après, tout ce qui a été mis en place par l'Europe avec Erasmus et tout, est un petit peu similaire.
Pour les études.
Voilà, pour les études.
Oui, mais alors là, il n'y a pas d'exigence de
non,
langue.
C'est différent.
Et en effet, c'est pour les études et c'est pas très long, quoi. Vous aviez, c'est un programme qui dure plusieurs années.
Exactement. On a la possibilité, en fait, chaque année de renouveler le contrat.
Ok. Très bien, passionnant. Et donc, vous aviez entendu parler de cette ville par le biais du jumelage,
oui.
À la base à Tours, et de ce programme, peut-être quand vous étiez lors de ce stage ?
Alors, j'avais entendu parler du programme, en fait, à l'université.
D'accord.
Parce qu'il commençait effectivement à se faire connaître au niveau de l'université à Paris. Et
bien sûr.
En général, ce sont essentiellement des étudiants, d'ailleurs, qui postulent. Hein. Il faut vraiment déjà avoir fait un cursus universitaire pour postuler, en fait, au programme JET. Donc voilà, c'est par le biais de l'université que j'avais eu connaissance de ce programme.
Ah, c'est génial. Lors de votre vie à Takamatsu, d'ailleurs, je dis Takamatsu, mais ça se dit Takamatsu ?
En fait, moi, je dis Takamatsu parce que là, je
c'est à la française ?
Oui, à la française, okay. Mais en même temps, si, en japonais, je dis Takamatsu aussi.
Takamatsu aussi. Ouais. Le « ou » peut se dire « ue » ou « ou ».
C'était plutôt « ou ».
Oui, ok.
Mais
ce n'est pas « e ».
Ah non.
Okay.
Non, c'est plutôt « ou ».
Takamatsu.
Oui, Takamatsu.
Takamatsu. Très bien, ça va être corrigé. Vous découvrez alors, donc pendant vos années là-bas, l'ikebana, et vous prenez de passion pour les fleurs japonaises. Vous vous formez auprès de Madame Takeda, qui a elle-même été formée à l'école Ohara.
Ohara, oui,
Ohara. L'une des trois grandes écoles d'art floral au Japon. Je ne le savais pas, c'est en faisant mes petites recherches que du coup j'ai vu qu'il y avait trois grandes écoles d'art floral. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots la philosophie de l'ikebana? De son lien avec la cérémonie du thé et des spécificités de l'école Ohara.
En fait, l'ikebana a été créé. Alors, si vous voulez, il y avait une tradition des fleurs, hein, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais l'ikebana est quelque part lié en même temps, enfin, est lié au développement de la cérémonie du thé.
D'accord.
C'est à peu près à la même époque, vers le XVIe siècle à peu près, que tout ça est mis en place. Et donc, c'est une façon de faire vivre les fleurs, puisque le mot ikebana, en fait, signifie fleur vivante ou l'art de faire vivre les fleurs. Et ça s'est développé au fil des siècles. Il y a plusieurs écoles, plusieurs branches qui se sont développées. Et l'école Ohara est plus tardive. Elle a été développée fin 19e siècle. Et c'est une école qui est plus naturaliste parce qu'en fin de compte, elle suit davantage le rythme des saisons. C'est-à-dire
D'accord.
qu'on va davantage utiliser des fleurs de saison dans les compositions qu'on va réaliser.
Très bien.
Et moi, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'étais à Takamatsu, puisque Madame Takeda, effectivement, me proposait régulièrement de partir dans la nature et d'aller récolter des branches pour les utiliser après dans les arrangements. Voilà.
D'accord. Et ce sont des arrangements plutôt complexes ou plutôt
Non,
simples?
c'était assez simple. En fait, il y a toujours la thématique de la terre, du ciel et de l'homme. En fait, il y a trois axes différents. Et non, c'était assez simple. Vous avez
D'accord.
plusieurs styles après,
Oui.
Moribana et tout ça, enfin plusieurs styles dans la composition d'arrangement floral. Mais voilà, c'était absolument passionnant à apprendre.
Et donc, on est au Japon, on ne fait rien par hasard et par pur, disons, comme pur passe-temps. Il y a sous l'ikebana, si j'ai bien compris, il y a une vraie philosophie qui sous-tend l'ikebana.
En fait, ça fait partie des fameuses voies, les do, comme on
Oui.
appelle en japonais. Vous avez la voie du thé, vous avez la voie de l'encens, vous avez la voie des fleurs. Donc, ce sont vraiment des écoles qui participent en fait comment dire, c'est de la méditation quelque part, hein. Ça fait partie de tous ces enseignements qui sont qui sont pour moi liés à la spiritualité en fait. Sans dogme, hein, sans église, sans rien du tout, mais c'est une façon d'entrer en lien avec la nature, hein, et d'entrer en méditation quelque part.
Et de rentrer en harmonie avec le
Tout à
monde de
fait,
manière
avec
générale.
l'environnement, avec la nature, oui. C'est comme ça
Comme
que je le
la
ressens en
cérémonie
tout
du
cas,
thé.
c'est comme ça que je le ressens.
Très bien. Et quel est son lien avec la cérémonie du thé?
Alors la cérémonie du thé, donc tout ça, ça s'est comment dire, ça s'est mis en place à peu près aux mêmes époques, hein, 16e, 15e, 16e siècle. Et la cérémonie du thé, en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à une cérémonie du thé lorsque vous étiez au Japon, Mathilda.
Jamais une complète, pour être très
D'accord.
honnête.
Mais en fait, si vous assistez à une cérémonie du thé dans un pavillon de thé, en général, vous avez toujours une fleur qui est posée à l'intérieur du pavillon de thé, et c'est une fleur de saison. Donc, c'est un arrangement floral qui est lié à la cérémonie du thé qu'on appelle le chabana. Cha, c'est le thé, et hana, bana, c'est
Excellent.
la fleur. Donc, c'est la fleur du thé. Et donc, c'est important également. Vous voyez, il y a toujours ce lien entre la nature et les différentes choses qui vont être mises en place, que ce soit l'encens, que ce soit le thé. Voilà. C'est vraiment une harmonie entre tous ces éléments.
Et ce côté sacré que vous ressentez dans l'ikebana et qui est commun à la cérémonie du thé et globalement à toutes ces écoles qui se finissent par do, c'est lié, ce côté sacré est lié aussi peut-être aux racines bouddhistes de
Tout
tous
ça,
ces
c'est
arts.
oui, tout ça, c'est lié finalement parce que ça a été mis en place au départ par des moines, par des lettrés. Donc effectivement, il y a une part
C'était les
de
moines,
oui,
oui.
tout à fait.
C'était les moines, et ensuite les aristocrates se sont saisis de ces arts
Alors c'était
dans
effectivement
cet
mis à
ordre-là.
disposition, enfin organisé pour l'aristocratie effectivement au démarrage.
De retour en France, vous reprenez vos études et vous passionnez de botanique en passant notamment un diplôme auprès du Muséum d'histoire naturelle et vous rédigez dans le cadre d'un Master 2 à l'INALCO un mémoire sur la grande vogue des hippomées à l'époque d'Edo. Avant de plonger dans votre sujet de cœur, qui sont les jardins ornementaux de l'époque d'Edo, comment définiriez-vous le jardin japonais?
Alors, le jardin japonais, il est vraiment pluriel. Il a été créé finalement avec des usages différents. Au départ, j'oserais dire que ce sont des jardins qui ont été créés pour les temples bouddhiques. Donc, c'était des jardins de méditation, de prière. C'est notamment ce qu'on voit quand on va à Kyoto. Après, vous avez eu des jardins, les jardins de l'aristocratie, les jardins de la cour impériale, donc les jardins qui entouraient les palais, les châteaux. Donc, on peut en voir également à Kyoto. Après, vous avez toujours à Kyoto. Alors, ça, c'est vrai que Kyoto, c'est vraiment la quintessence au niveau
pour
des jardins.
C'est pas mal,
c'est ça. Et en fait, si vous allez dans ce qu'on appelle les machiya, donc je sais qu'en plus, vous avez eu l'occasion d'interroger une personne qui a un machiya à Kyoto. Souvent, vous avez ce qu'on appelle les tsuboniwa. Les tsuboniwa, ce sont ces petits jardins intérieurs dans les maisons.
D'accord.
C'est-à-dire que sur l'avant de la maison, vous aviez le magasin,
Vous
aviez l'habitation et un petit jardin intérieur.
D'accord.
Donc les tsuboniwa sont des petits jardins à découvrir absolument ravissants.
Excellent.
Et puis après, vous avez eu, notamment les shoguns Tokugawa sont arrivés, enfin ont dirigé le Japon pendant l'époque d'Edo, vous avez eu les jardins des résidences seigneuriales. Donc là, c'était des jardins promenades. Voilà, puis vous avez les jardins de thé, donc avec les pavillons de thé. Enfin, vous avez toutes sortes de jardins, c'est vraiment pluriel.
Très bien. Mais c'est vrai que l'esthétique par rapport à notre culture du jardin est très différente. Sur quoi se base-t-elle?
Alors en fait, au niveau des jardins, alors au départ, il faut dire qu'il y a une influence chinoise évidente.
Hein, oui.
Les premiers siècles du Japon, à partir du moment où le bouddhisme est arrivé au Japon vers les 5e, 6e siècles, vous avez une influence chinoise qui a été vraiment prépondérante.
Oui, parce que je lisais justement dans le livre dont on discutait un peu plus tôt, qui est souvent le premier livre qu'on lit sur l'histoire de Edwino Reishawa, pendant des siècles, tous les ans, le Japon envoyait des ambassades pour se former en Chine.
Exactement. Et comme il y a eu en même temps l'introduction du bouddhisme, si vous voulez, il y avait des moines qui étaient envoyés, en fait, ou en tout cas des personnes qui étaient envoyées en Chine pour apprendre les principes du bouddhisme et venir les enseigner après au Japon. Donc, cette influence chinoise a été vraiment prégnante, vraiment importante les premiers siècles, pendant les premiers siècles du Japon. Et en fait, quand vous êtes en Chine, ce qui est important dans les jardins, vous avez différents aspects. Vous avez l'aspect minéral, l'aspect végétal. Donc, tout ça, après, c'est organisé, en fait, a pris comment dire? Ça s'est développé au Japon. Le Japon a développé sa propre culture. Et effectivement, dans les jardins japonais, vous avez toujours quand même une prépondérance. Vous avez une part importante attribuée aux pierres, à l'eau et au végétal. En fait, c'est une composition à partir de ces trois éléments-là.
D'accord.
Ce sont les éléments de la nature.
Oui. Voilà. Et qui peut varier d'une composition assez complexe. J'imagine, par exemple, dans les jardins des seigneurs qui veulent impressionner les hôtes qu'ils reçoivent, jusqu'à des compositions ultra simples, comme dans les temples bouddhistes qu'on peut voir à Kyoto.
Les jardins zen, les kare-sansui, les jardins secs zen et tout
voilà.
Ça, bien sûr.
Où il y a juste une mer de gravier et des rochers
qui symbolisent plein de choses. Et voilà. Donc en fait, le minéral, le végétal et l'eau sont vraiment les éléments indispensables dans un jardin japonais.
D'accord. Donc, votre mémoire porte sur les jardins de l'époque d'Edo. Pourquoi avez-vous choisi cette période en particulier?
Alors, la période d'Edo, elle m'intéresse parce qu'en fin de compte, c'est une période de paix.
C'est à quel moment la période?
Ça commence en 1603.
Okay.
Donc, début 17e. Et là, on arrive vraiment. Le Japon a été unifié par trois grands personnages.
Oui.
Et là, on arrive vraiment à une période de paix après des années de
des
guerre.
Siècles, on peut dire, de guerre intestine.
C'est incroyable. Des rivalités entre familles, entre fiefs, entre provinces. Et là, on arrive à une période de paix. Donc, les choses se posent. Les shoguns Tokugawa prennent, dirigent le Japon. Il y a toujours la cour impériale à Kyoto, mais le pouvoir de l'empereur est vraiment relatif. Et les shoguns Tokugawa s'installent en fait dans la ville d'Edo, qui est la future ville de Tokyo.
Et qui a un village à l'époque.
Exactement, c'est vraiment un village de pêcheurs au bord du Pacifique. Donc c'est là qu'ils s'installent. Et en fait, ce que j'ai découvert à travers mes lectures, assez rapidement, c'est que ces shoguns Tokugawa étaient passionnés par les plantes. Notamment les premiers qui adoraient les camélias.
D'accord.
En fait, il y avait une tradition de camélias à Kyoto, au sein de la cour impériale. Donc je pense que c'est pour imiter quelque part un petit peu l'aspect culturel de la cour impériale de Kyoto que les shoguns Tokugawa se sont intéressés aux fleurs. Et
D'accord.
ils ont aménagé des jardins, en fait, au sein du château d'Edo. Voilà.
D'Edo, qui est à l'emplacement aujourd'hui du
Voilà,
palais
alors
impérial.
c'est dans l'enceinte, effectivement, c'est pas tout à fait au même endroit, il y a
D'accord.
encore les restes de. Les fondations, mais c'est à côté effectivement du palais occupé par l'empereur et l'impératrice.
Et par rapport à la passion des fleurs de la cour à Kyoto, les shoguns Tokugawa ont choisi les camélias.
Alors ça a commencé avec les camélias, et puis après en fait, il y a eu plusieurs, enfin ce sont uniquement des shoguns Tokugawa qui ont régné pendant toute cette période d'Edo.
D'accord.
Donc ils étaient plus ou moins, ils faisaient tous plus ou moins partie de la même famille, ou c'était par filiation, enfin voilà. Et en fait, ils étaient tous passionnés de plantes quasiment. J'ai découvert ça, j'étais complètement
Ah oui.
stupéfaite. Et donc, passionnés de
C'est vrai
plantes,
que c'est pas commun,
ah ben c'est pas
17e
commun.
siècle.
Et c'est ça qui est intéressant, et
Oui.
c'est ça que je vais traiter aussi dans ma thèse, c'est qu'il y a finalement ce rapport extrêmement intéressant entre ces hommes, qui étaient des hommes de guerre,
Oui.
ce sont des samouraïs hein, à la base.
Oui, c'est pas l'empereur,
Mais
c'est
non,
pas un
ce sont des
oisif,
samouraïs,
quoi.
ce sont des
Ouais.
militaires. Et ces gens-là, en fait, étaient passionnés par les plantes. Donc il y a vraiment un espèce de contraste entre voilà, le samouraï et la beauté de la plante, quoi. On est vraiment la force et la violence, et avec à côté l'élégance de la plante. Enfin, je trouve ce rapport très intéressant.
Alors, c'est hyper intéressant et j'aimerais beaucoup qu'on revienne à cette histoire ou qu'on creuse un petit peu plus ce lien entre, en effet, qu'est-ce qu'ils retirent ces samouraïs de cette fascination pour les fleurs. Mais juste avant, est-ce qu'on peut faire une remise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'histoire du Japon sur quel est ce jeu de force entre qu'est-ce que c'est le shogun par rapport à l'empereur, comment ça fonctionne tout ça?
Bon, l'empereur, donc c'est la cour impériale, hein,
Oui.
c'est vraiment, c'est lui qui assure c'est le symbole du Japon, on va dire,
Ce qui est incroyable,
la
c'est qu'il
lignée.
est, il a, cette lignée ne s'est jamais arrêtée.
Non.
Elle a toujours été respectée, et je veux dire, ça ne peut exister qu'au
Intentionnellement,
Japon.
voilà, exactement.
Donc, ils sont directement descendants de
Amaterasu,
Amaterasu, la
voilà,
déesse du
du
soleil.
soleil, exactement.
Mais donc, la lignée n'a jamais été rompue, on est d'accord.
Je ne pense
Depuis
pas, normalement non.
qu'on
Alors
s'en
après, je ne
souvienne.
veux pas non plus raconter de bêtises parce
Bah,
que.
moi, c'est ce
Mais
que j'ai lu
normalement non.
aussi. C'est ce qui est incroyable. Je
Oui.
n'en reviens pas.
Mais
Ok.
c'est là où ils ont été extrêmement intelligents, effectivement. Et
Bon.
alors, les shoguns Tokugawa, en fait, il y a eu cette unification, cette pacification du Japon avec trois grands personnages.
Au XVIe siècle.
Exact. Enfin, oui, puisque
Oui.
fin 16e, début 17e. Et en fait. Les Tokugawa, donc cette famille, a pris le pouvoir. Ce sont eux qui se sont imposés suite à cette unification, finalement. Et ils se sont installés à Edo, loin de la cour impériale, donc la future ville de Tokyo. Et là, en fait, ils ont organisé tout un régime féodal, avec la mise en place. Ils ont voulu contrôler, finalement, tous les seigneurs. Parce que, si vous voulez, il faut imaginer qu'à cette époque-là, c'est un petit peu comme ce qu'on a eu en France, hein, au moment de la
Du Moyen
féodalité,
Âge,
l'Ancien
ouais.
Régime. Donc en fait, au Japon, vous aviez des provinces,
Oui.
comme nous, finalement, et dans ces provinces, vous aviez des fiefs. Donc vous aviez le seigneur avec son château qui régnait sur ses sujets. Et toutes ces différentes provinces et ces différentes fiefs, en fait, les shoguns Tokugawa ont voulu les contrôler. Ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait de rébellion, qu'il y ait de nouveau des mouvements, des guerres qui recommencent. Et donc, pour les contrôler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un système qui s'appelle le Sankin Kōtai. Donc, c'est le système de résidence alternée. Et ils demandaient, en fait, à tous les seigneurs de venir passer un an sur deux à Edo.
Et c'est le même principe que Louis XIV avec la cour de Versailles, c'était de
Exactement.
obliger les
Pour
nobles
mieux les
à
contrôler.
venir
Pour
sous son
savoir ce qui se
escarcelle.
passait et tout ça, exactement. C'était le contrôle.
Et mais eux là, c'était un fonctionnement différent parce qu'ils venaient un an
Alors,
à la
un an
cour.
passé à Edo. Par contre, ils laissaient femmes et enfants à Edo. Ils étaient pris en otage. Et l'année suivante, bon, ça dépendait après des régions, il pouvait y avoir des différences en termes de période. Mais l'année suivante, le seigneur retournait dans son fief.
Sans sa femme et ses enfants.
Exactement. Bah oui, ils étaient pris en otage pour être sûr que le seigneur allait revenir et non
N'allez
pas
pas.
fomenter un coup d'État du fin fond de sa province.
C'est quand même incroyable, quoi. C'est très basique, mais très efficace, probablement.
Exactement. Mais là où ça a été intéressant, et c'est ce qui m'intéresse et ce qui va faire le sujet de ma thèse, c'est que finalement, comme les shoguns Tokugawa qui étaient à Edo aimaient les plantes et avaient aménagé des jardins dans l'enceinte des châteaux, eh bien les seigneurs qui devaient passer un an à Edo ont été obligés de faire construire des villas.
Bien sûr.
Pour installer la famille, hein,
bah
tout
oui.
simplement. Ils avaient, suivant leur richesse, ils avaient de une, deux ou trois ou même quatre villas à Edo,
d'accord,
dans les faubourgs. Et en fait, pour plaire aux Tokugawa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait aménager des jardins. Et ils ont fait venir, en fait, de leur province, des plantes, des fleurs qui étaient produites sur place. Et c'est comme ça que toute cette horticulture a commencé à se développer, en fait, grâce finalement aux Tokugawa.
Super intéressant. Avant de parler des plantes en elles-mêmes, est-ce qu'on peut du coup revenir à ce lien que vous avez identifié entre qu'est-ce que recherche ce samouraï, donc ce militaire, selon vous, parce que c'est sûr que vous n'avez pas pu les interviewer, dans cette culture des fleurs, qu'est-ce qui les fascine tant? Puisque c'est vrai que ça paraît tellement opposé à ce qu'ils font.
Alors ça, malheureusement, Mathilda, je ne vais pas pouvoir vous répondre, parce que ce sera le sujet de maths.
Ah, bon,
il faudra patienter.
Elle s'arrête quand?
Ah bah, écoutez, j'espère la soutenir quand même l'année prochaine.
L'année prochaine, ah oui,
oui,
vous êtes rapide,
bien.
Du coup.
Bah, disons qu'il faudrait peut-être quand même un
parce
petit
que
peu que je me
presse. Ça peut durer des années.
Voilà, non, là, on va essayer de faire les choses, voilà.
Okay.
Et non, l'idée, c'est d'essayer de rédiger et de soutenir l'année prochaine.
Okay.
Et après, dans la foulée, effectivement, de publier donc, des petits ouvrages grand public, finalement, pour expliquer tout ce qui s'est passé. Parce que moi, l'idée, c'est de transmettre aussi. Je ne veux pas garder ça pour moi. C'est tellement fantastique, tout ce que j'ai découvert, que j'ai absolument envie de transmettre.
Bien sûr. Mais si on devait faire une hypothèse à ce stade-là, ce serait quoi selon vous? Parce que c'est vrai que par exemple, donc moi je ne connais pas du tout cette fascination pour les fleurs, mais c'est vrai que j'ai pu voir par le biais de la cérémonie du thé cette attirance du samouraï, par exemple, qui se recueillait lors de la cérémonie du thé juste avant les combats. Voilà, il y avait ce côté. Des opposés avec pendant la cérémonie du thé cette beauté épurée spirituelle qui lui permettait de se ressourcer avant de se lancer dans la violence du combat.
Bon, je vais pas trop en dire, mais je pense qu'il y a une part liée au confucianisme et au bouddhisme.
Oui.
Par contre, je me permets juste de faire un petit rapprochement parce que finalement ça fait aussi partie de ma recherche. Je ne sais pas si vous savez, mais le 19e siècle en France est considéré comme le siècle d'or de l'horticulture.
Ah oui.
L'horticulture française, en fait, a été absolument magnifique au 19e siècle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, et là, je fais un rapprochement avec le Japon, je vais le développer dans mon sujet, le rapprochement entre tous ces hommes politiques français et l'horticulture. C'est-à-dire que tous les hommes politiques français du 19e siècle, quasiment, étaient tous soit des présidents de sociétés d'horticulture ou des présidents de sociétés savantes. Tous ces gens-là avaient une connaissance des plantes et de la botanique.
Incroyable, je ne savais pas.
C'était des hommes politiques. Par exemple, la Société nationale d'horticulture de France a quasiment eu, qui a été créée, si je me souviens bien, début 19e, quasiment tous les présidents de la SNHF à Paris étaient des hommes politiques. En fait, si vous voulez, il y a un lien. Voilà, et c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est le fait d'hybrider, de créer. Il y a plein de choses, mais je veux pas en dire davantage.
Oui, vous êtes au début de votre recherche, donc c'est encore...
Je garde le suspense.
Bien sûr, je comprends. Donc au fil de vos recherches, vous avez découvert que les Japonais étaient donc passionnés d'horticulture, mais c'était passionné très tôt pour l'horticulture. En faisant tout un travail de sélection, notamment de graines, d'hybridation des plantes. À votre avis, d'où vient cet intérêt des Japonais pour les fleurs qui est arrivé très tôt, finalement, peut-être si on en compare, par exemple, à ce qui s'est passé en France?
Alors, en fait, je pense qu'il y a une prédisposition. Alors, tous les spécialistes ne sont pas d'accord, mais moi, je vous partage ce que je ressens. N'oublions pas que la religion première du Japon, c'est le shintoïsme. Donc, c'est une sorte d'animisme, en fait, qui prône qui indique qu'il y a des divinités, des kami derrière chaque pierre, chaque mousse, chaque montagne, chaque rivière. Donc, si vous voulez, il y a une prédisposition naturelle au respect de la nature, c'est le cas de le dire. Donc déjà, il y a cet état de fait de départ.
Ces racines qui pensent
vraiment des racines.
Que chaque arbre cache
une divinité. Un kami, voilà, c'est ça. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu l'introduction du bouddhisme, 5e, 6e siècle, qui arrivait de Chine par la Corée. Et qui dit bouddhisme, en fait, assez rapidement, les gens se sont mis à faire des offrandes de fleurs à Bouddha, en même temps que leur prière. Donc, si vous voulez, pour faire ces offrandes de fleurs, il fallait mettre en place des cultures. Alors, on pouvait ramasser des fleurs dans la nature, bien évidemment. Mais quand vous étiez en plein hiver, il n'y avait pas forcément les fleurs. Alors, il y avait des camélias, mais il n'y avait pas forcément non plus un choix de fleurs pour faire ces offrandes. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'une sorte d'économie s'est mise en place, en fait, une sorte d'horticulture avant l'âge, afin de produire des plantes au fil des saisons, finalement, notamment pour ces offrandes à Bouddha.
Par le biais des offrandes qui étaient des fleurs, principalement.
Exactement.
Et quelles sont les fleurs de prédilection des Japonais ?
Alors déjà, vous avez... je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un passeport japonais. Quand on est à l'aéroport, en général, qu'on fait la queue ou peu importe, des fois, vous avez l'occasion de regarder les passeports des Japonais. Et sur le passeport, en fait, vous avez la fleur de chrysanthème, parce que c'est le symbole de l'Empire.
D'accord.
C'est la fleur impériale, en fait. Bien que cette plante soit originaire de Chine.
D'accord.
Mais c'est vraiment la fleur impériale, le chrysanthème.
C'est fou, parce que nous, la symbolique, elle est très, très différente.
Mais oui, mais c'est récent. Parce que, et je reviens à mon 19e siècle français, au 19e siècle, quand vous regardez la littérature, tous les bulletins d'horticulture du 19e siècle, dans tous les jardins, en tout cas les jardins de propriété, vous aviez des chrysanthèmes, parce que c'était la fleur d'automne par excellence. C'était la fleur d'or de l'automne.
D'accord.
Malheureusement, suite au conflit de la Première Guerre mondiale, on a voulu honorer tous ces gens qui étaient décédés.
Et c'était en automne.
Et c'était l'automne, et c'est comme ça qu'on a choisi le chrysanthème.
Okay.
Mais au départ, c'était une plante ornementale. Donc le chrysanthème a effectivement une symbolique extrêmement importante au Japon. On a bien sûr le cerisier, le sakura.
Oui.
Et puis il y en a d'autres. En fait, quand vous faites de l'arrangement floral, vous avez souvent des fleurs qui sont associées, en fait, chaque mois à des fleurs qui sont préconisées pour l'arrangement floral.
Pour l'arrangement floral. Et vous avez parlé plutôt, évidemment, des camélias.
Oui, les camélias, magnifiques.
Et les camélias, il y a deux types de cultures. La culture pour le thé et la culture pour la fleur.
Bien sûr. Alors, vous avez la culture effectivement ornementale, pour simplement admirer les fleurs, mais ce ne sont pas les mêmes espèces. Le thé quand vous faites du thé, c'est du Camellia sinensis, c'est le cha. Mais par exemple, quand vous regardez les magnifiques fleurs de camélia au début de l'année, en janvier, février, mars, c'est une autre espèce de camélia. Mais c'est la même famille, enfin c'est le même genre botanique,
d'accord,
on va dire,
okay,
avec des espèces différentes.
Avec des espèces différentes.
Voilà.
Et c'est vrai que les Japonais ont énormément représenté les camélias.
Oui.
Et c'est aussi la fleur... si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, c'est d'après ce que j'ai lu, qui est associé au samouraï.
Alors, en fait, au départ, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une fleur qui était extrêmement prisée par la cour impériale de Kyoto. En fait, ce sont les empereurs, c'est vraiment la cour impériale qui aimait beaucoup les camélias, et c'est ce qui a été repris après par les shoguns Tokugawa. En fait, vous avez toute une... Bon, plusieurs sortes de plantes qui sont vraiment qui rythment la vie des Japonais au quotidien. Et puis toutes ces plantes ont été représentées en peinture, ont inspiré les poètes pour la composition des poèmes, puisque les Japonais composent énormément de poèmes au fil des saisons. Vous avez les fameux kigo, les fameux petits mots japonais qui expriment la saison. Donc vous retrouvez en fait toutes ces floraisons dans toute la culture japonaise.
Et donc votre mémoire traite des hippomées.
Alors ça, c'était le mémoire que j'avais fait en Master 2, effectivement, l'histoire des hippomées, qui sont ces fleurs d'un jour, on appelle ça Asagao en japonais.
D'accord.
Donc c'est le visage du matin, littéralement. Et ce sont des plantes qui ne sont pas très connues en France, mais c'est la même famille que les liserons, les fameux liserons que vous voyez dans des terrains un peu vagues et tout ça, donc c'est la même famille.
Je ne connaissais pas du tout. Et quelle était du coup la conclusion de votre mémoire autour de ces hippomées, quels étaient du coup l'attrait des
Alors en fait, j'ai évoqué toute l'histoire de cette plante au Japon, justement pendant cette époque d'Edo. C'était une plante qui était essentiellement plantée et cultivée en pot. Donc c'était aussi une particularité. Tout ça s'est fait au moment de la création de tous les fours. donc en poterie, hein, japonais. Comme la production de céramique commençait à être mise en place, en fait, les Japonais ont utilisé les pots, les ont détournés. Au départ, ils ont utilisé des pots qui servaient à l'alimentation. Et puis, très rapidement, ils ont eu l'idée de faire un trou pour le drainage de l'eau. Et ils ont utilisé ces pots pour mettre des plantes dedans.
D'accord.
Parce que c'était plus facile pour les transporter et tout ça. Voilà.
Surtout
Une des choses que
les
j'ai découvertes à travers mon mémoire.
Et à quoi ressemblaient donc ces jardins des seigneurs de l'époque d'Edo?
Alors, en général, c'était des jardins promenades. On appelle ça les jardins promenades. Ça leur permettait finalement d'effectuer tout un itinéraire. Le jardin était assez grand, évidemment, ça dépendait des moyens du seigneur. Mais c'était un jardin qui permettait de déambuler, de regarder les fleurs de saison, de composer des poèmes. Il y avait des kiosques, il y avait plusieurs fabriques en fait dans le jardin.
Oui.
Ils se posaient à un endroit. Il y avait souvent des monticules, des collines qui représentaient des monts sacrés, chinois ou japonais. Voilà, donc c'était le genre de jardin-promenade dans lequel il déambulait.
Qu'on peut visiter encore aujourd'hui à Kyoto,
alors,
de ce style-là.
Non, c'est plutôt
non
à Tokyo, en fait.
À Tokyo,
ouais,
d'accord.
C'est plutôt à Tokyo, parce que là, c'était vraiment lié aux seigneurs féodaux de l'époque d'Edo. Et comme ils habitaient tous à Edo, finalement, c'était là-bas. Malheureusement, la plupart de ces jardins ont disparu. Alors, déjà, il y a eu le grand tremblement de terre de 1923 qui a quasiment tout détruit. Et puis après, vous avez eu les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en voir.
Alors, il y en a quelques-uns
qui
sont restés, effectivement. Il y en a quelques-uns qui sont. Tout n'a pas été entretenu. En général, les résidences ont disparu. Il ne reste qu'une partie du jardin où il a été restauré, reconstitué. Donc voilà, malheureusement, c'est peau de chagrin quand même.
Est-ce que vous pourriez nous fournir deux, trois adresses que je pourrais mettre dans l'article sur les références pour ceux qui veulent jeter un œil à ces jardins auxquels vous pensez?
Oui. Il y en a deux qui sont dans la baie de Tokyo.
D'accord.
Il y a le Hamarikyu et le Kyushibarikyu. Donc là, ce sont vraiment deux jardins qui sont d'anciens jardins de résidence seigneuriale et qui méritent le détour finalement.
Parce que vous m'avez aussi envoyé, lors de la préparation de cet épisode, différentes estampes, et notamment une qui était assez curieuse, donc on va les mettre sur l'article dédié pour que tout le monde puisse en bénéficier, mais c'était un jardin qui ne semblait pas du tout ne ressemblait pas du tout à un jardin promenade, mais plus à un jardin de plantation, de champs de fleurs. Est-ce que vous voyez lequel...
Alors, oui, ça c'est le jardin Yokuan-en. Malheureusement, il a disparu ce jardin.
Oui.
Ça, c'était le jardin d'un grand seigneur qui s'appelait Matsudaira Sadanobu. Et cet homme était passionné, en fait, quand il s'est retiré de la vie, de sa vie professionnelle, tout simplement. Il a constitué des collections de plantes, notamment de cerisiers. Donc c'est peut-être, je pense vous avoir envoyé effectivement aussi un rouleau de peinture représentant les cerisiers.
Oui.
En fait, ces cerisiers étaient dans la collection de ce seigneur à Edo.
D'accord.
Et il a aussi constitué notamment des collections de lotus. Et il plantait ces lotus dans des pots.
D'accord.
Donc les lotus n'étaient pas dans un étang.
Excellent.
En fait, il les avait plantés dans des pots.
C'est pour savoir, pour ceux qui veulent cultiver le lotus.
Exactement, comme quoi c'est certainement possible. Et il avait rapporté, en fait, il avait fait venir des plantes de tout le Japon.
D'accord. Et là, ce jardin n'a pas l'air d'être un jardin promenade.
Alors, c'est un jardin promenade quand même, mais qui est d'une richesse extraordinaire. Parce
d'accord.
que, justement, il avait pour particularité de rassembler des collections végétales qui
venaient
du Japon
entier. Énormément d'essences différentes.
Exactement.
D'accord. Bon, on renvoie du coup nos auditeurs à l'article où il y aura cette estampe, notamment. Mais donc, nous sommes au mois d'avril. parlons donc tout spécialement des sakura, dont c'est la pleine floraison en ce moment. Pourquoi les fleurs de cerisier spécifiquement sont-elles si aimées au Japon? Et quelles sont les variétés qui ont été développées?
Vaste sujet.
C'est ça.
Les cerisiers, c'est vraiment effectivement symbolique du Japon. C'est vraiment la fleur préférée des Japonais.
Oui, on peut dire.
Oui, ça, indéniablement. Pourquoi? Alors, plusieurs raisons. Hein, ça a commencé en fait assez rapidement à partir du XIIe, XIIIe siècle. En fait, le cerisier a commencé à l'emporter sur la fleur du prunus mum, dont on parlera peut-être après.
Le prunier, oui.
Voilà,
on va en parler.
L'abricotier, en fait. On va clarifier tout ça. Exactement, on va clarifier tout ça. Donc, en fait, les cerisiers, très rapidement, ont été admirés pour la beauté de leurs fleurs. Alors, il y a plusieurs espèces botaniques. Donc, quand je dis botaniques, ce sont des espèces sauvages, naturelles. Donc, il y a plusieurs espèces botaniques qui poussent à travers tout le Japon, du nord au sud. Et assez rapidement, les Japonais ont commencé à croiser en fait des espèces entre elles. Donc ils ont commencé à hybrider. Et ils ont créé des variétés horticoles. Quand on parle d'horticoles, ça veut dire que ça a été créé par l'homme.
Okay.
Et notamment au 19e siècle, à Edo, donc toujours notre future ville de Tokyo, il y a un pépiniériste qui a créé une variété qu'il a appelée, alors elle n'a pas tout de suite porté ce nom-là, le nom a été rectifié fin 19e, mais cette plante, enfin cet arbre, ce cerisier a porté le nom de Prunus, donc Prunus ça désigne un cerisier, Yedoensis, Somei Yoshino. Et cet arbre-là, il a été planté à travers tout le Japon à partir du 20e siècle. Pourquoi ? Parce qu'il fleurissait fin mars, début avril, au moment du commencement de l'année fiscale et surtout scolaire. Il a notamment été planté dans toutes les cours d'école du Japon. Imaginez, Mathilda, vous qui avez des enfants, imaginez un petit bout de chou qui va rentrer pour la première fois de sa vie à l'école. Il est assez terrorisé, il tient la main de sa maman, il se dit mais voilà, ça va commencer et tout. Il arrive dans cette cour d'école et il voit en face de lui un magnifique cerisier tout en fleurs.
C'est génial.
Donc c'est ce qui accompagne la vie sociale des Japonais depuis leur démarrage dans la société en fait.
Dans la vie, c'est exactement. Le cadeau d'accueil.
C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est si important. Mmh. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, enfin, vous le savez, on voit toujours chaque année, il y a une espèce d'excitation avec l'annonce des pronostics de floraison du cerisier au Japon et tout.
La météo des cerisiers.
Mais en fait, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire des pronostics, des prévisions ? Parce qu'il y a tellement de variétés, tellement d'espèces, ça paraît incroyable, surtout qu'il y en a qui ont une floraison précoce, d'autres plus tardives, ça dépend après d'où on se place au Japon. Et ben en fait, ces pronostics, ils sont établis à partir de quoi ? À partir de ce fameux Prunus
de Somei Yoshino,
voilà.
Qui est planté partout et du
partout,
coup qui est la référence.
Donc il y a des arbres étalons et en fait chaque année ils observent l'évolution du bourgeon et ils en tirent en fait des pronostics de floraison.
Voilà. Et l'arbre étalon par exemple à Tokyo, il est où vous savez ?
Je pense, alors je veux pas vous dire de bêtises, je me demande s'il est pas au Shinjuku Gyoen ou à Yoyogi, enfin quelque chose comme ça. Mais je veux pas vous dire de bêtises. En tout cas il y en a partout à travers le Japon. Et c'est ce qui permet d'établir ces pronostics de floraison. Voilà, comme ça, vous saurez maintenant que c'est fait à partir du Somei Yoshino.
Eh bien oui, je saurai, on le saura tous. Merci beaucoup pour cette information précieuse. Et d'ailleurs, donc, cette variété de sakura, la fleur est de quelle couleur ?
Elle est magnifique, elle est très pâle.
Très pâle, oui.
C'est en ce fait, que les Japonais préfèrent tout résultat. Ce qui est pâle.
Voilà.
Ouais. Tout ce qui est rose pétant, pardon.
Même pas trop.
Non,
ouais.
Non.
Il faut que ce soit à la limite entre blanc et rose, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça, le chic du chic.
C'est ça, c'est le raffinement, en fait.
Très bien.
Voilà.
Oui, et donc nous, à la Maison du Mochi, on a planté des sakura de la variété Cerulata. Mm-hmm. Vous la connaissez, celle-ci ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Malheureusement, les fleurs sont roses.
Oui, mais rose soutenue ?
Rose.
Ah, c'est pas grave, vous en planterez d'autres.
Voilà, on va en planter d'autres, comme ça on aura d'autres roses.
Mais ils ont peut-être une floraison plus tardive que les autres. Ça vous permet de profiter davantage
des fleurs.
Oui,
mais c'est vrai que là-dessus, j'ai un petit regret. C'était pas censé être aussi rose. Mais peut-être aussi en fonction de là où vous les plantez.
Non, vous avez plusieurs variétés, mais ça, vous savez, il y a des spécialistes des cerisiers japonais. J'ai notamment un ami belge qui a une pépinière du côté de Mons, en Belgique, qui est le spécialiste des érables et des cerisiers, en fait. Et lui, c'est...
Trop bien, vous pourriez nous donner son nom, je le noterai.
Oui, c'est la famille Choteau qui est en Belgique.
Très bien. Eh bien, je le noterai, et puis la prochaine fois, j'irai en Belgique pour me fournir.
Oh, mais vous pouvez... Bah, en fait, ils sont présents dans toutes les fêtes des plantes, notamment les grandes fêtes des plantes qui sont à Paris, comme celle de Chantilly.
D'accord.
Et celle de Saint-Jean-de-Borgard. En général, ils sont présents, donc on peut aller chercher des plantes chez eux.
Et donc, il est spécialiste des plantes...
Des érables. Et des cerisiers qu'il greffe lui-même, de mémoire.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette bonne adresse. Mais donc, on s'était dit qu'on allait parler de ces histoires de Prunus, parce que j'avoue, je ne voulais pas manquer de parler à une spécialiste des plantes sans aborder ce sujet épineux, puisque peut-être, comme moi, cher auditeur, vous avez hésité sur la traduction de, par exemple, l'umeboshi, est-ce une prune, un abricot, et vous étiez interloqué sur le fait que les cerisiers sont en fait appelés de leur nom latin prunus. Mm. Donc, est-ce que, Sophie, vous pourriez nous aider à un peu comprendre, faire du haut, voir au clair qu'est-ce qui se passe dans cette...
Alors, en fait, pour les... Alors, ce qu'on appelle, en fait, on parle des ume. On appelle oui. ça ume en japonais. Oui. Ume, en fait, effectivement, umeboshi, hein, ça veut dire, en fait, ume, donc c'est en fait un abricotier.
Oui.
Alors.
Donc, ce n'est pas un prunier ni
non,
un cerisier.
C'est pas un prunier. Ah, non, ce n'est pas un cerisier non plus. C'est pas un prunier. Le problème, c'est que si vous voulez, au démarrage, je pense que ce sont. Alors, à vérifier, mais d'après mes lectures, ce sont plutôt les anglo-saxons qui finalement ont fait une erreur d'interprétation.
D'accord.
Et on traduit ce. En fait, on crée le mot plum.
Plum.
Qui est donc le prunier en anglais. Et après, ça a été repris par, par les Français. Mais, sur le plan botanique, ce qu'on appelle ume, en fait, son nom botanique, c'est Prunus mum.
Okay.
Et ce Prunus mum est plus proche de l'abricotier que du prunier.
D'accord.
Donc, les umeboshi, ce sont des abricots.
D'accord.
Des abricots séchés.
Ok.
Voilà.
Bon, ça, c'est bien. On sait maintenant que c'est les prunes,
voilà,
des abricots. Et les sakura, du coup.
Sakura, c'est les cerisiers.
Des cerisiers.
Oui, sakura, c'est le nom japonais de cerisier.
D'accord.
Donc,
pour autant, le nom latin,
c'est abricotier.
Prunus.
Oui, parce qu'en fin de compte, c'est la même famille.
C'est la même famille.
Voilà, c'est okay. pour ça. C'est vraiment la même famille, mais vous avez des genres différents.
D'accord.
En fait, en botanique, vous avez une classification. Vous avez au départ la famille, après vous avez le genre, après vous avez l'espèce. Voilà, donc c'est classifié en fait suivant plusieurs attributs, on va dire. Donc,
le tronc commun, c'est le genre, et
c'est
le
genre.
Genre Prunus.
C'est exactement ça.
Pour les umeboshi, comme pour les sakura.
Voilà, c'est ça.
Très bien.
Donc pour les ume, c'est Prunus mum. Okay. M-U-M-E. Voilà.
Et pour les cerisiers, c'est Prunus.
Alors vous avez différentes sortes.
Ok, voilà. D'accord. Dont celui dont on a parlé un peu plus tôt.
Vous avez les Prunus campanulata, vous avez... Alors, le Prunus iodoensis, en fait, c'est un hybride, donc on met... enfin, je ne vais pas rentrer dans des cours de botanique, mais là, c'est Prunus X iodoensis, parce qu'il a été hybridé, c'est une variété horticole.
D'accord.
Mais les espèces, effectivement, endémiques du Japon, bah, vous avez Prunus campanulata, vous avez Prunus yamasakura, enfin, vous en avez plusieurs, quoi.
D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette clarification. Mais avant de passer donc au crible de la fin, comme toujours, il faut qu'on parle des saisons, surtout sur notre thématique, ce serait trop dommage de ne pas l'aborder. En ce moment, donc, nous sommes en avril, que vous évoque ce mois ?
Alors le mois d'avril pour moi c'est vraiment le mois des jardins, le printemps arrive, j'habite dans le Val-de-Loire et à chaque fois c'est un véritable régal pour moi de circuler le long des coteaux. De tuffeau, parce que le mois d'avril, c'est symbole pour moi du jaune et du violet.
Ah,
je suis
oui.
très sensible aux couleurs.
Je suis d'accord avec vous, c'est les premières couleurs qui
voilà.
arrivent. Hein.
Et ce sont deux couleurs complémentaires sur le cercle chromatique.
Oui.
Ce sont les deux couleurs complémentaires qui vont très très bien ensemble.
Totalement.
Et vous avez donc une explosion de jaune et de violet.
Mm.
Pour moi, je suis très contemplative dans l'âme, comme je pense que vous l'aurez compris. Et vraiment, c'est un bonheur de circuler le long de la Loire et de voir... Ces nuances allant du jaune au violet.
Voilà. Et donc, c'est le jaune et le violet d'abord. Et ensuite, viennent le rose pâle.
Exactement,
et
le blanc aussi. Mmh. Voilà, vous avez différentes... En fait, c'est intéressant parce que vous avez raison. On pourrait presque dire qu'à chaque mois sont associées des couleurs particulières.
Bah, au Japon, on ne se prive pas d'associer à chaque mois
tout
des
à
couleurs
qui
sont inspirées de la nature, évidemment.
Oui. Ouais. Mmh.
Très intéressant. Et donc, quelles sont les choses que vous aimez faire à cette période ?
M'occuper de mon jardin,
oui.
bien sûr.
Vous avez un jardin,
J'ai
évidemment.
La chance d'avoir un petit jardin. Et donc, c'est le moment, tout est en train de sortir.
Il faut tout lancer, oui.
Il faut vraiment voilà, tailler. Enfin, c'est même un petit peu tard, là, au mois d'avril.
D'accord.
Mais s'occuper des plantes, essayer de remettre un petit peu de ménage.
Et vous avez quel type de plantes ?
Alors, j'ai pas mal de plantes qui viennent du Japon,
d'accord.
forcément, mais qui ne sont pas très adaptées, puisque en Touraine, on a plutôt une terre argilo-calcaire.
Oui.
Mais néanmoins, j'ai quand même quelques plantes qui réussissent à pousser. Je suis très heureuse d'avoir un osmanthus. Alors ça, c'est vraiment... Je l'avais acheté en France, hein, chez un pépiniériste. Mais l'osmanthus, c'est une plante que j'aime énormément, qui fait des petites fleurs orangées. Très discrète, mais très, très parfumée, début octobre.
D'accord.
Et l'osmanthus, enfin, l'osmanthe a été un parfum extrêmement utilisé au Japon. Alors, c'est pas très glamour, mais notamment pour tous les produits, pour tous les diffuseurs d'odeurs dans les toilettes.
Ah bon ? Parce que moi, je le connais un peu dans des thés. Il y a des thés qui sont parfumés.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Okay.
C'est très raffiné, mais j'adore cette odeur et j'en ai un magnifique qui fait presque 3 mètres de haut dans
mon
jardin.
Ah oui, eh ben, c'est très intéressant. Moi, j'ai jamais senti une fleur d'osmanthus et j'étais très intriguée.
Dès qu'ils seront en fleur, je vous appellerai et puis vous viendrez sentir.
Petite fleur orangée, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que ça, c'est aussi des découvertes très intéressantes aussi pour travailler oui. en cuisine.
Oui, tout à fait.
On aime beaucoup travailler avec les fleurs à la maison du mochi et on le fait de plus en plus. Sous forme d'hydrolat, d'huile essentielle ou à l'état sauvage.
Et là, vous avez une matière phénoménale avec
oui.
le Japon.
Bah oui, c'est sûr. Mais donc, passons au Japon avec les saisons. Vous organisez des voyages au Japon au fil des floraisons. Mm-hmm. Quel itinéraire conseilleriez-vous à nos auditeurs en fonction de chaque saison pour un voyage de 2 semaines environ?
Alors après, ça dépend surtout de ce que les gens ont envie de découvrir au Japon.
Mais si par exemple, eux, ils ont envie de voir des beaux jardins, qu'est-ce que vous conseilleriez?
Les beaux jardins, Kyoto impérativement.
Oui.
Vraiment Kyoto, puisque là, on a quand même les jardins de temples, de sanctuaires. On a le jardin du palais impérial, le jardin du château Nijo. Kyoto, c'est vraiment un incontournable. Aller à Nara aussi, évidemment.
Oui.
Là, on est vraiment dans les premiers jardins, parce que c'est le démarrage, finalement, de tous ces grands temples bouddhiques.
Oui, c'était la capitale avant Kyoto.
Exactement. Mmh. Donc, voilà. Et puis après, ne pas hésiter à sortir des sentiers battus, finalement, parce que le problème du Japon, maintenant, on peut le dire, parce que c'est une réalité, hein, le Japon souffre de surtourisme,
oui.
notamment à Kyoto.
À Kyoto, ça peut être un cauchemar. Hein.
Ah bah, c'est devenu un cauchemar, à tel point que la ville de Tokyo a mis en place, en fait, une restriction du quartier de Gion. On oui. ne peut plus aller aussi facilement dans le quartier de Gion, parce que les gens avaient un comportement absolument détestable avec les habitants, avec les locaux. On oublie que c'est une ville dans laquelle habitent des gens.
Bah, oui.
Et ces gens-là sont excédés par les comportements indélicats des touristes et par le nombre, en fait. Donc, ils sont obligés de réguler et de mettre en place des choses. Bah, ça, on voit ça aussi à Venise, en Italie,
bien sûr,
dans plein d'endroits. En fait.
Dans plein d'endroits, ouais.
Donc,
ouais.
N'hésitez pas à sortir des sentiers battus. On a la chance d'avoir l'Office de tourisme du Japon à Paris, qui a un site internet qui est vraiment bien fait. Ne pas hésiter à les contacter.
D'accord.
Vraiment, ils font la promotion des villes, de différentes régions. Et au moins, on est sûr d'avoir des informations actualisées et quelque part objectives. Hein. Parce que moi, ce qui m'ennuie souvent, c'est que parfois, les informations sont subjectives, en fait. Parfois, c'est un peu fantasmé et tout ça. Enfin, voilà. Donc moi, je suis une fille assez terre à terre. Hein. Donc autant aller à la source et contacter l'Office de tourisme. Et là,
d'accord.
au moins, les gens pourront créer en fait un itinéraire
en fonction.
Qui leur conviendra,
et
simplement.
C'est vrai que si on est honnête sur les voyages que... Enfin, par exemple, là, le dernier voyage que j'ai fait au Japon, c'était en novembre dernier. Mm-hmm. Ce que j'ai préféré, c'était les sentiers hors des sentiers battus.
Bien sûr.
Puisque c'est vrai que la foule, c'est quelque chose qui enlève tout charme, finalement, à une visite.
Oui, et puis vous avez... Moi, j'ai vu l'évolution, évidemment. La première fois que je suis allée au Japon, c'était en 1989. Et en fait, j'ai vu l'évolution au fil des années, parce que j'y suis retournée très, très, très souvent. Et non seulement vous avez effectivement ce côté... cette foule qui se rassemble dans les mêmes endroits, et puis vous avez aussi tous ces gens qui se prennent en photo. En fait, je trouve ça dommage. Finalement, les gens ne regardent plus les choses par leurs yeux, mais à travers un écran, qui est l'écran du portable ou de l'appareil photo.
Oui, puis pour les jardins, la foule doit être vraiment problématique. Je pense que concrètement, on ne doit plus avoir les mêmes jardins quand on a... des milliers de visiteurs par jour que quand on en a juste une centaine.
Exactement.
Ça ne doit pas être les mêmes choses.
Et il y a tellement de jardins à découvrir, cachés. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter.
Donc, l'Office du tourisme.
Oui, c'est vraiment une bonne...
Il lui, en fait, donne gratuitement des conseils,
avez,
des itinéraires.
Vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez même télécharger. Ils ont des PDF qui sont téléchargeables en ligne.
Avec
et tout.
Des circuits.
C'est vraiment... Alors, les circuits, dans ces cas-là, soit les personnes créent leur propre circuit ou se prennent contact avec des agents ou prennent contact pour des itinéraires au fil des floraisons avec moi. Mais en fait, on peut très bien imaginer un itinéraire. Puis il y a tellement de guides aussi, livres, papier, qu'on peut encore acheter sur... voilà. On a beaucoup d'offres maintenant, donc...
Oui, ça demande préparation, mais c'est possible de faire
plonger,
quelque chose.
Voilà.
Et pour celles et ceux qui ne veulent pas aller au Japon, quel jardin en France leur conseilleriez-vous de visiter?
Alors, vous avez peut-être entendu parler du parc oriental de Maulévrier,
oui,
qui est dans les deux.
Qui est pas loin de la Touraine.
Zut, j'ai un doute. Non, c'est dans le Maine-et-Loire. Oui, je crois que c'est dans le
Maine-et-Loire. Oui, dans le 49.
Je ne veux pas les froisser, les pauvres. Mais
j'ai jamais été, figurez-vous.
Alors, moi, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai même fait des conférences là-bas. Et c'est un parc oriental qui a donc été créé par un Français, hein, et qui est devenu magnifique. Notamment lors de la floraison des cerisiers.
Donc c'est maintenant qu'il faut y aller.
Ah,
là.
C'est trop tard, c'était même il y a 2 semaines, je crois.
D'accord.
Une ou 2 semaines. Ils ont fait hanami. Donc ils ont organisé des hanami sous les cerisiers en fleurs. Je crois qu'il y a eu des concerts de musique traditionnelle et tout ça. Enfin, j'invite les gens à regarder sur Internet Parc oriental de Maulévrier.
Oui.
Voilà. Alors, un des jardins que j'adore, enfin, si ce n'est mon préféré, c'est celui du musée
Albert Kahn, oui.
À Boulogne-Billancourt. Ça, c'est vraiment mon préféré.
D'accord. Puisque là, il est clairement, parce que Maulévrier, il est oriental.
Il est inspiré, effectivement.
Donc, il n'y a pas que le Japon, l'inspiration.
Non, il n'y a pas que l'inspiration. Il n'y a pas que le Japon. Albert Kahn, en fait, qui était ce grand financier du fin 19e, début 20e, en fait, a créé, donc, autour de sa maison, à l'époque, a créé des jardins d'inspiration diverses,
oui,
notamment un jardin japonais qui, pour moi, est vraiment très réussi. Alors, il y a eu un jardin plus récent, enfin, au cours du XXe siècle, un peu plus moderne, mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce jardin Albert Kahn.
Japonais.
Ouais.
Et qui a été fait, selon vous, de manière assez fidèle.
Oui, en plus, vous avez des maisons, il y a des structures, vous avez du bâti.
Oui.
Donc, si vous voulez, vous avez vraiment l'impression de vous transporter au Japon. Le choix des fleurs a été respecté. Ils ont vraiment mis des plantes que l'on trouve dans les jardins japonais. Pour moi, c'est vraiment un de mes préférés.
C'est votre destination préférée.
Ouais.
Très bien, merci beaucoup pour ces conseils de visite. Notre entretien touche à sa fin. Passons donc au petit questionnaire de la fin. Quel est votre plat japonais salé préféré?
Alors, en fait, j'en ai deux. Ça dépend des saisons. On reste toujours fidèle aux saisons, Mathilda. En hiver, j'aime bien ce qu'on appelle les oden. Mm. C'est une sorte de bouillon, en fait. Quand vous allez dans les convenience stores au Japon, souvent, ils sont près des...
Oui.
Vous voyez une espèce de grand plat.
Dans les
avec
konbini.
De la soupe. Oui,
voilà,
c'est ça,
c'est
dans
ça.
Les konbini. Et vous avez donc des œufs, vous avez plein de choses, en fait, qui flottent dans ce bouillon.
Des fish cakes aussi.
Oui, c'est ça, exactement.
Et des légumes.
Voilà, tout à fait. Et en fait, en hiver, je trouve ça vraiment... très bon, j'aime beaucoup le goût, en fait, c'est à base de dashi, hein, tout simplement. Et en été, j'aime beaucoup manger des soba, les nouilles de sarrasin.
Mmh.
J'adore ça.
Et donc froide, on les mange froides.
Ah oui, froide. Mmh. Oui.
Et on trempe dans une sauce à base de dashi
tout
aussi.
Tout à fait.
Et un peu vinaigré, hein.
Alors, vous mettez un petit peu... Souvent, ils mettent du wasabi avec.
Du wasabi.
Donc, c'est ce qui relève le goût.
Un peu piquant.
Voilà.
Okay.
Et c'est vraiment très agréable parce qu'il fait tellement chaud et humide au Japon l'été que...
Ouais, j'ai un souvenir comme ça aussi à Tokyo de soba alors qu'il faisait très chaud.
Ça fait
qui
du
était
bien.
Servi même sur des glaçons.
Oui, tout à fait, pour les rafraîchir davantage. Ouais.
Mmh. C'est vrai que c'est très bon. Mmh. Et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout?
Vous voulez dire en gâteau?
Oui, là, je parle de douceur parce que c'est difficile de parler de pâtisserie au sucré japonais, mais oui.
Alors, sucré, ce que j'aime par-dessus tout, c'est très classique, mais ce sont les sakuramochi.
Sakuramochi.
Ah bah ça c'est...
Bah oui, mais voilà,
forcément.
Ça vous ressemble bien.
Ah bah, sakuramochi, c'est mon dessert préféré, enfin c'est mon mets sucré préféré.
Et donc, parmi les sakura mochi, donc c'est ce mochi avec cette feuille de cerisier saumurée que l'on mange, il y a deux sortes. La sorte du kansai, qui ressemble à un gros daifuku enrobé d'une feuille. Et il y a la forme d'Edo ou de Tokyo, qui est une galette
une crêpe,
repliée sur la garniture à base d'haricots rouges.
Tout à fait.
Quelle est votre version préférée?
Alors, moi, j'ai vécu 2 ans à Tokyo et 3 ans sur l'île de Shikoku. Donc, j'étais davantage habituée à celle du Kansai.
Oui, bah moi, j'avoue que c'est ma préférée aussi.
Elle
c'est vrai que la
généreuse.
Surprise à l'intérieur aussi.
Plus généreuse.
Puis ce côté dodu et moelleux.
Gourmande, ça correspondait davantage.
Et comment décririez-vous le goût de la feuille de cerisier?
C'est très dur.
On s'attend à quelque chose de fleuri, mais c'est pas le cas.
Non, c'est très vert.
Oui.
C'est très vert, c'est très végétal.
Mmh.
C'est très végétal et en même temps, comme ça a été saumuré, Il y a un petit côté salé qui ressort. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça balance très bien avec le côté sucré.
Oui.
Il y a une harmonie qui se crée dans la bouche au niveau des papilles. Oh, c'est une explosion en bouche.
Et est-ce que vous mangez toute la feuille ou en partie?
Ah,
mais en
partie,
tout. Parce qu'au Japon, il y a les écoles et des écoles différentes là-dessus.
Non, je mange tout. Je ne laisse rien.
Ouais, c'est pareil. Et quel est votre goût ou parfum préféré?
Alors, toujours sur au niveau alimentaire?
Oui. Oh, non, ça peut être odeur aussi.
Alors, odeur. Alors, déjà, au niveau du goût dans la cuisine japonaise, bon, le dashi, pour moi, c'est vraiment la base, le bouillon. Hein.
Oui.
C'est vraiment la base au niveau du goût. Au niveau des odeurs. Au niveau des odeurs, alors ça, ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs olfactifs. Quand j'habitais au Japon, j'étais toujours touchée par l'odeur des azalées satsuki. Qui fleurissent au mois de mai. En fait, quand vous vous promenez dans les rues, souvent, vous voyez des massifs de des buissons qui ne sont pas très hauts, qui vont faire aller jusqu'à 1 mètre de hauteur et qui fleurissent au mois de mai avec des grandes fleurs généreuses. Ce sont des azalées, mais satsuki. J'adore l'odeur de ces plantes parce que quand on passe la main, quand on les froisse, il y a une odeur très particulière qui se dégage. Donc ça, c'est quelque chose de...
Donc ceux
dans
qui
ma mémoire.
Vont en mai au Japon, ne manquez pas les azalées satsuki.
J'ai froissé de la main. C'est très particulier comme odeur, mais moi c'est une odeur qui me parle. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'automne, au mois de début octobre, l'odeur des osmanthus.
D'accord.
Ah ça c'est extraordinaire.
Que je ne connais pas, mais que j'aimerais beaucoup connaître.
C'est sucré, c'est à moitié entre le jasmin et l'abricot.
Mmh. Ah oui, ça doit être assez
extraordinaire.
Et si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il?
Oh, c'est difficile.
Oui, c'est pas la question facile.
un goût, un parfum. Alors, j'ai une petite faiblesse pour le yuzu.
D'accord.
Au niveau de l'odeur, le parfum.
Oui, vous me disiez aussi que c'était votre parfum préféré parmi la carte de mochi.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup le yuzu.
Et pourquoi vous seriez le yuzu?
Parce qu'en fait, je suis très sensible depuis toute petite aux agrumes. Donc, c'est un parfum qui me parle. Et le yuzu, en plus, il y a le souvenir avec Madame Takeda, ma professeure d'Ikebana. Hein, tout est lié à elle. cette femme m'a vraiment fait découvrir des choses extraordinaires. Et je me souviens un jour, on était partis fin d'automne. On était monté dans les montagnes de... On était allé dans les montagnes de Tokushima. Et elle m'avait... on était arrivé dans un endroit, un jardin, avec... En fait, c'était un verger de yuzu qui appartenait à un monsieur qui était très âgé, qui malheureusement n'est certainement plus de ce monde. Et je crois qu'il commençait à neiger. Et j'ai une vision, j'ai un souvenir de ces yuzu avec les flocons de neige qui commençaient à tomber. Oh, c'était extraordinaire. Et j'aime cette odeur, le parfum.
C'est vrai que
le zeste.
Parmi les agrumes, c'est, je trouve... Alors, moi, j'utilise le terme aromatique, mais je pense que j'ai tort de l'utiliser. Mais en fait, c'est un agrume. L'agrume, il y a quelque chose de très vif et de très séduisant. Mais dans le yuzu, il y a quelque chose de l'ordre du parfum, de quelque chose de encore plus fort et raffiné. Je ne sais pas comment on pourrait le décrire.
La gamme est plus élargie.
Oui, c'est ça.
En fait, ça me donne l'impression de prendre l'espace et c'est doux. En fait, je trouve que c'est un bon équilibre entre le doux et l'acidité.
Et l'amertume aussi. Parce que c'est vrai
qu'il y a un petit peu d'amertume également.
On peut évoquer aussi un peu le pamplemousse,
oui,
si on essaie de le caractériser.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le prince des agrumes, le yuzu.
Enfin, j'adore le yuzu parce qu'en plus, c'est lié à des souvenirs, évidemment. Donc,
bah voilà. Oui, que vous nous avez partagé, merci. Et quelle est votre saison préférée?
Alors, indéniablement l'automne.
L'automne.
Même en France, c'est l'automne parce que pour moi, c'est la période de fructification.
D'accord.
C'est l'abondance.
Et c'est l'abondance dans les fleurs aussi.
C'est l'abondance dans les fleurs. C'est l'époque au Japon qui voit la coloration des arbres. Donc, non seulement on a la fructification. Hein, tout à l'heure, on parlait des kakis. J'adore les kakis.
Ah oui.
J'adore manger les kakis. On a les châtaignes, on a les kakis. On a tous ces fruits qui arrivent à maturité. Et en même temps, vous avez effectivement au Japon, pour en revenir au Japon, vous avez aussi quelques fleurs. Hein, vous avez les Camellia sasanka qui commencent à fleurir. Vous avez les Farfugium japonicum, ces fleurs jaunes qui sont magnifiques. Et vous avez la coloration des arbres, les érables, les ginkgo biloba. Donc, au niveau visuel, c'est extraordinaire.
Et du coup, selon vous, c'est la meilleure période pour visiter le Japon?
Ah non, ça je laisse à chacun,
À chacun
bien
le...
sûr, la
Ouais.
liberté de choisir suivant la saison qu'il préfère.
Évidemment, et puis par exemple en automne, en fonction de la région dans laquelle ils vont, la période
Oui,
va être différente,
tout à fait. Et
donc
c'est
il
ça qui
faut
est
savoir choisir en
intéressant.
fonction de ça aussi.
Vous avez totalement raison. Et ce qui est bien, en fait, quand on va au Japon, c'est que, comme vous le savez, le Japon est très, très étiré.
Oui.
Du nord-est au sud-ouest. Et donc, en fait, vous avez différentes latitudes. Ce qui nous donne différents climats et donc différentes espèces de plantes qui ne vivent pas toutes à travers le Japon. Donc, effectivement, au fil des saisons, vous pouvez très bien. Par exemple, quand on suit les Japonais, on dit toujours qu'on va du sud vers le nord.
Ah oui.
Vous pouvez observer la floraison des cerisiers sur l'île de Hokkaido début mai. Donc, si les gens n'ont pas eu le loisir d'aller voir les cerisiers en fleurs à Tokyo fin mars, eh bien, ils peuvent tout à fait programmer un voyage sur l'île de Hokkaido
En mai.
après la fonte des neiges au mois de mai.
Et ce sera merveilleux.
Ou faire à l'inverse, aller à Okinawa dans l'extrême sud du Japon fin décembre, début janvier pour voir la floraison des Campanulata.
Oui, il n'y a pas de cerisier à
Si,
Okinawa.
si, si, il y a des
Ah,
cerisiers
d'accord.
Campanulata,
Ah, ok,
si, si.
les campanulata, c'est...
Ouais, qui ont
D'accord.
des fleurs roses.
Ah,
Plus soutenu.
pour ceux qui aiment les
Voilà.
roses. quelle serait votre bonne adresse autour du Japon en France?
Bonne adresse autour du Japon. Alors, spontanément, quand on dit bonne adresse, moi, je pense tout de suite au musée Guimet. Alors,
Ok.
c'est peut-être pas le genre d'adresse que vous attendiez,
Bon, si,
mais
toutes
moi,
les
le
adresses
musée
sont bonnes.
Guimet, pour moi, c'est vraiment la référence parce que c'est la découverte, en fait, de cet art japonais, de cette culture, à travers les estampes, à travers les tableaux, la sculpture. C'est une porte d'entrée pour moi vers le
Et ils ont
Japon.
une collection pérenne autour du Japon?
Tout à fait extrêmement
D'accord.
importante. C'est vraiment le musée, enfin, musée Guimet, pour moi, c'est la référence. Après, une autre adresse, alors comme moi, je vis en Touraine, une petite adresse qui me touche, c'est l'adresse de Jean Nobouki, que vous
Ah
connaissez
oui.
peut-être, qui a son restaurant donc à côté du théâtre de Tours, puisque moi, je connaissais très bien sa maman.
D'accord.
Voilà, donc c'est une voilà,
C'est
c'est
une
toujours lié
très
à
bonne table
oui,
japonaise
à Tours,
à
voilà.
Tours.
C'est vraiment lié à des souvenirs, à un épisode de vie, on va dire.
Ma professeure de japonais travaille chez
Ah ben voilà.
Nobuki. Tout se rejoint. Mais c'est vrai que c'est délicieux, c'est une très belle
Oui,
cuisine.
et puis j'aime bien le concept. Il est intéressé lui aussi par tous les agrumes, par les yuzu et tout ça. Enfin, très intéressant. Et puis le fait d'avoir un papa français et une maman japonaise, ça lui permet aussi de manier avec, enfin, d'avoir une habileté effectivement dans le maniement de la cuisine et voilà.
Et auriez-vous une bonne adresse au Japon à nous partager?
Bonne adresse au Japon, non. Pas particulièrement une bonne adresse au
Il
Japon, il y en a partout.
y en a partout, ouais. C'est la difficulté.
La seule chose que je dirais à vos auditeurs, c'est soyez en éveil. Ouvrez les yeux, sentez, utilisez vos cinq sens et regardez tout ce qui se passe autour de vous. N'hésitez pas à vous arrêter dans un petit boui-boui qui va vous intéresser, vous attirer parce qu'il va y avoir une odeur de fumée ou de quoi que ce soit qui va se dégager. Il y a des bonnes adresses partout au Japon. Je pense que c'est à chacun, suivant sa sensibilité, en fait, de la découvrir.
De se laisser surprendre.
Oui.
Et, mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'au Japon, toutefois, les restaurants ne ressemblent pas à des restaurants pour nous. Et donc parfois, il y a des devantures où déjà tout est écrit en japonais
Oui.
et qui sont complètement fermées, alors que chez nous, les restaurants, bah, c'est totalement ouvert. Sur l'extérieur, on voit à l'intérieur. Donc là, il y a une difficulté quand même. Mais selon vous, du coup, c'est l'odeur qui permet de passer ce
L'odeur,
cap.
alors ça dépend aussi de. Enfin, moi je suis toujours très sensible à tout ce qui est visuel et odeur et tout ça. Enfin, de toute façon, je suis. Voilà. Et même si vous ne parlez pas la langue. Si ça vous, si l'apparence, en fait, la devanture vous attire, n'hésitez pas à entrer, à jeter un coup d'œil et vous serez certainement accueilli par les gens. Il faut oser,
Il faut oser.
il faut ouvrir une porte, si ça ne vous intéresse pas, voilà, après vous refermez la porte, vous partez, il n'y a pas de problème,
Avec
vous êtes comblé.
politesse, oui.
Mais bien sûr.
Quel est votre mot japonais préféré?
Ah! Alors ça, c'est. Bah, je pense que vous allez comprendre par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est le mot hana. Hana, c'est la fleur.
Oui. Évidemment. S'il n'y avait qu'un livre, lequel conseilleriez-vous? sur le Japon, évidemment.
Alors, celui que vous avez cité tout à l'heure est extrêmement pertinent, « Histoire du Japon et des Japonais » de Edwin Oralshower. Il y a un livre que j'aime beaucoup, que je suis en train de relire, c'est « Chroniques japonaises » de Nicolas Bouvier.
Ah oui, il m'avait été conseillé aussi par Muriel Barbery.
Ah, mais bien sûr.
Je l'ai lu, il est génial.
Bien sûr, bien sûr.
Chroniques japonaises,
ouais. C'est vraiment du ressenti, c'est vraiment...
Ouais.
Oui, ce livre mérite d'être lu, je pense.
Donc, pour situer, c'est un journaliste qui a vécu, un écrivain journaliste qui a vécu beaucoup de temps au Japon, mais en passant plusieurs mois, en repartant,
Voilà, donc c'est vraiment du vécu, c'est un partage de...
C'est une sorte de journal.
Le ressenti, c'est vraiment important. Donc, ce partage de ressenti et de vécu véhicule des choses qui peuvent effectivement nous intéresser les uns les autres.
Et ce qui est assez incroyable quand on le lit, c'est que c'est une très belle langue, il écrit très bien,
ouais.
Mais c'est très détendu.
Oui.
C'est-à-dire, souvent, les amateurs du Japon, on les imagine plutôt stricts.
Ah bon? Voilà. Les amateurs de manga, ils sont stricts,
c'est
Mathilde?
Non. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois très bien.
Il y a ce côté un peu rigide, peut-être, qui attire, mais là, lui, c'est pas du tout son cas, c'est un baroudeur qui a été aux quatre coins du Japon et surtout dans les endroits peu visités, c'est ça qui l'intéressait. Très bien, ce sera noté pour les auditeurs. Quelle personnalité, ayant une relation privilégiée avec le Japon, souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Ah, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Esther Michel, hein, qui a le restaurant Koedo à Paris.
D'accord.
En fait, il y a quelques années, je travaillais à Boulogne-Billancourt. Et quand je rentrais le soir dans mon logement, je passais par la station RER ici Val-de-Seine. Et Esther venait d'ouvrir un Ekiben, en fait. Elle vend des bento, des paniers repas. Elle vend des bento, en fait, dans la gare. Enfin, c'est comme ça qu'elle a commencé, parce que maintenant, elle a des restaurants. Elle avait commencé par ouvrir un corner. Et elle fabriquait des bento qu'elle vendait, en fait, aux gens dans la gare.
D'accord.
Et je me suis arrêtée un jour, j'ai commencé à discuter avec elle. Fille passionnante, elle est originaire d'Alsace, si je me souviens. Oui, elle est même originaire d'Alsace, puisque c'est elle qui a contribué au développement des relations entre l'Alsace et le Japon.
D'accord.
Donc elle parle couramment japonais, elle a vécu au Japon, et elle est passionnante. Elle travaille avec des femmes japonaises qui font de la cuisine familiale, et elle vend des bento en région parisienne.
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup pour cette personnalité très intéressante. Notre entretien touche donc à sa fin. Un grand merci, Sophie Lebert, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à vous, Mathilda.
Et un grand merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Le podcast fait donc une pause de 6 mois, mais reviendra plein de beaux entretiens et d'un nouveau cycle d'épisodes courts en décembre. Je vous souhaite d'ici là un merveilleux été et une délicieuse entrée dans l'automne. À bientôt. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.